nous, quand on parle de notre vie avec non seulement la jeunesse, mais avec les chrétiens du monde entier, de cette bonne nouvelle de la résurrection de Jésus-Christ. Et j'avais à cœur de vous parler de quelqu'un qui nous ressemble un petit peu et qui s'appelle Thomas. Thomas. Thomas, le chercheur de vérité. Alors, rien que comme idée de Thomas, c'est l'un des disciples, l'un des douze. Comme les gens tout à fait ordinaires, et très simples, élevés parmi nous des pêcheurs, des fonctionnaires, des gens tout à fait ordinaires. Mais Thomas, lui, est souvent montré du doigt comme un sceptique. C'est un type hésitant qui remet tout en cause. En tout cas, c'est la perception qu'on a de lui. C'est l'image qu'il laisse. C'est une image qui lui colle à la peau. Et puis, hésitant, il remet vraiment tout en cause. Et on en voit parfois dans les conversations, en disant, moi, je suis comme toi. Je ne crois que ce que je vois. Et cette réputation, elle vient d'un épisode de l'Évangile de Jean, qui nous raconte comment Jésus est apparu à ses disciples le jour de Pâques, pendant que Thomas lui était trop. Les disciples informent Thomas, le Seigneur est ressuscité, et lui, il n'en croit pas en lui. Je vous lis un extrait de cet épisode qui se trouve dans le livre de Jean, chapitre 20. L'un des douze, Thomas, nommé le jumeau, n'était pas avec eux lors de la venue de Jésus. Les autres disciples disaient : Nous avons vu le Seigneur. Mais il leur répondit : Si je ne vois pas la marque de clou dans ses mains, si je ne mets pas mon doigt à la place de Dieu, et si je ne mets pas la main dans son côté, je ne crois pas. Et la question posée par ce passage, c'est la suivante. Comment croire au ressuscité sur la parole des autres sans la voir? C'est notre problème. C'est notre problème. Exactement ce que nous sommes. Sans se faire. Croire sans avoir vu. Nous avons entre les mains le témoignage des disciples et les paroles de Jésus. Et ces paroles et ces témoignages, ces récits, sont décrits afin que vous croyiez que Jésus est le Messie. C'est ce que dit la fin de l'évangile de Jean. Le Fils de Dieu, tout en croyant, vous avez la vie en moi. Alors, le fait de croire ne nous empêche pas de réfléchir et de nous poser des questions. On a envie de comprendre ce qui s'est vraiment passé. Et la foi, ce n'est pas un saut dans le vide, croire n'importe qui ou n'importe quoi. Et toutes les générations font des générations chrétiennes après et par. Connaissent cette grande nouvelle au travers du témoignage des autres, de l'annonce des autres. Alors, il y a trois arguments, j'aimerais vous les présenter, trois arguments majeurs en faveur de la résurrection de Jésus. Le mort aujourd'hui, comme à l'époque, est attesté. Trois arguments majeurs sur lesquels les chrétiens s'appuient pour croire en la résurrection de Jésus. Premier argument, c'est la découverte du tombeau vide. On a senti ce le tombeau vide. Et les premiers disciples parlent d'une résurrection corporelle, c'est-à-dire physique de Jésus. Toutes les précautions avaient été prises pour qu'on ne vienne pas brûler le corps de façon une superficie. On a eu pris ces précautions. Alors, il est difficile de montrer le corps de Jésus et la question a été réglée. Or, cela n'a pas été le cas. Donc, découverte du tombeau. Le deuxième argument, c'est que Jésus s'est apparu à plusieurs personnes après sa mort. Dans l'évangile, l'évangile nous est présenté dans Luc 15, au verset 3, par exemple, l'apôtre nous dit. Je vous ai transmis avant tout le message que j'avais moi-même reçu. Il est présent devant vous. Puisque moi, pour le péché, conformément aux Écritures, il a été ainsi de lui, il a ressuscité près de nous, conformément aux Écritures, ensuite il est apparu à Cléopas, puis aux douze. Après cela, il est apparu à plus de 500 frères et sœurs à la fois, dont la plupart sont encore vivants, évidemment, au moment où le texte est écrit, et quelques-uns sont morts. Paul prend ici les témoins de cette époque, prend les vivants, les témoins. Ensuite, il est apparu à Jean, il a tous les apôtres, après nous tous, il est apparu à moi aussi. Ce texte a été publié le 54 après Jésus-Christ. Et à ce moment-là, bien sûr, on pouvait se renseigner au gré des faits qui sont cités dans le texte. En ayant une enquête, c'était très facile de vérifier. Et puis, troisième argument, c'est la naissance de Christ. Comment expliquer la naissance de la foi chrétienne sans la résurrection? Sans la résurrection, il n'y a pas de Nouveau Testament. Sans la résurrection, il n'y a pas de Messie. Un Messie, c'est un sauveur. C'est quelqu'un qui vient de livrer son peuple. Si nous envoyons la résurrection, le corps de Jésus ressemble au vaste Christ. C'est quelqu'un qui a prétendu être Dieu, quelqu'un qui a fait des miracles, mais qui finit sa vie d'une manière horrible, exécutée sur une croix. C'est-à-dire que, sans la résurrection, on ne pouvait pas expliquer le pouvoir des apôtres. On sait simplement l'apôtre Pierre, il a renié Jésus à trois reprises. Et quelques jours plus tard, il prêche. Au vu et du sud de tout Jérusalem, devant des milliers de personnes, des pèlerins, ils prêchent. Savez-vous quoi? Il dit, acte 12, c'est que Jésus-Christ, c'est ce Jésus-Christ, pardon, que Dieu a ressuscité, nous en sommes tous pour. C'est un être complètement métamorphosé, complètement transformé, en raison de la parole de la résurrection sur sa vie. Alors, que dire de Dieu? Ils ont permis de leur vie pour avoir proclamé le ressuscité. Aurait-il eu le courage de se laisser tuer pour une histoire qui serait inventée? Je ne le crois pas. Puis, comment expliquer la conversion des juifs? Le premier disciple était un juif. Et depuis des siècles, ils étaient attachés à leur tradition qu'ils vont laisser de côté pour suivre Jésus le Messie. Jamais la vie n'a adoré un homme en tant que vie. Pourquoi est-ce que c'est à cause du miracle de la résurrection. Je reviens à notre ami Thomas. Et pourquoi j'aimerais souhaiter vraiment une chaleureuse bienvenue à tous les Thomas. Parce qu'on est tous un petit peu comme ça. On a besoin d'une chose, on a besoin de choses concrètes. Et Thomas est en quelque sorte un pont, une charnière entre le premier disciple et nous. Et tout ce qu'il exprime, au fond, sont une démarche positive de la foi. Peut-être que vous n'avez jamais pensé à cela, parce que quand on connaît l'étiquette sur quelqu'un, on a du mal à la reconnaître. Il est perçu comme celui qui doute. Thomas, en réalité, quand on creuse un petit peu plus le texte, on perçoit qu'il n'est pas ce qui a prévu le président, mais qu'il a besoin de choses solides dans sa vie. Nous avons tous besoin d'un socle sous nos pieds pour croire. Le scepticisme qu'on éprouve est plutôt l'expression de l'intensité avec laquelle il mène sa recherche. Je crois qu'il est un passionné. De vérité. Il recherche du fond de vérité. Pour moi, c'est très intéressant, il est un chercheur de vérité. D'abord, son nom, il s'appelle Thomas. Le nom de Thomas, ça veut dire le jumeau. En grec, c'est pareil, divine, le jumeau. Ressemblait-il à quelqu'un d'autre? Avait-il un frère jumeau? Vivait-il dans l'ombre de quelqu'un d'autre? Nous ne le savons pas. D'où venait-il? Qu'il ne se contente pas d'une foi de seconde main, d'une foi par procuration. parents, peut-être des élèves privés, peut-être que des amis, peut-être que l'Église aussi. Alors, vous apprenez bien, mais à un moment de la vie, c'est dans votre vie, il est important que vous-même fassiez un débat de la personne. La foi est une dimension collective, bien sûr, communautaire. Mais la foi a aussi une dimension individuelle, personnelle. Il est important que vous puissiez aussi nourrir cette foi et trouver le chemin de Jésus-Christ. Et de temps en temps, dans notre église, qui est l'église pentecôte, avec les pentecôtistes, les charismatiques, les grands dons du Saint-Esprit, il y a une autre chose, comme vous l'avez entendu ce matin, a pu faire parole, a pu prier, pour encourager quelqu'un parmi vous. Toute l'église, c'est tout le cas ce matin. Nous sommes encouragés à croire dans la résurrection de Jésus-Christ, personnellement, individuellement. Et vraiment, je dirais, or la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère. La démonstration de celle qu'on ne voit pas. C'est une conviction. Et cette conviction, elle naît dans chacun de nous à partir de la parole de Dieu. La foi vient de ce qu'on entend, ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Au fond, on se dit, je sais, et je sais, et je sais, et je sais. Une conviction personnelle, individuelle. Et déjà, dans l'Ancien Testament, nous trouvons l'expression de cette conviction. Nous avons par exemple un homme comme Job. Job soupira à un moment donné en disant « Je sais que mon Rédempteur est vivant. » Deux ans, il était conscient que la vie, ce n'était pas ce que nous vivons ici sur la terre, mais qu'il y a autre chose. Ça fait quelque part que je dis qu'il y a autre chose. Et j'aimerais que le dire. Ce n'est pas que je sens que, c'est pas une émotion, c'est pas un sentiment, certitude de vous contenter pas d'une fois par conviction, de la foi de vos parents, de la prière de vos proches. Il existe une dimension collective, il existe une dimension. La première mention de Thomas se trouve dans l'évangile de Jean, le chapitre 1. À ce moment-là, Jésus s'apprête à partir de Bethanie. Il y a une famille qui est en deuil, la famille de Lazare, lui-même est mort, il fait quelques jours. Et malgré l'hostilité des habitants de la région, le Thomas dira, il engage la politique à aller jusqu'à Bethanie. Et il dit, allons jusqu'à Bethanie. Il s'implique. C'est un homme décidé de aller jusqu'au bout de son engagement. Et dans le discours, il dit, allons mourir avec Jésus. Il faut dire que ça peut être pessimiste, pour éviter. Il est allé jusqu'au bout de cet engagement. La foi, c'est un choix, c'est une décision, c'est un engagement personnel. C'est ce que je veux dire. La deuxième mention de Thomas se trouve dans Jean 14, verset 3, où le texte nous dit : je vais vous préparer une place, je reviendrai et je vous prendrai avec vous. Tant que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais. Et vous êtes frappé au Seigneur. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Et Jésus lui dit, c'est bon, je suis le chemin, la vérité et la vie. On ne peut pas faire en passant la vie. Donc je dis que la vérité, ce n'est pas seulement un enseignement, ce n'est pas une doctrine, ce n'est pas un message, la vérité, c'est une personne. Je et la résurrection, c'est toujours. Ce n'est pas seulement un fait historique, un événement, un enseignement, une doctrine, c'est une personne. Je suis. Vous avez tout à l'heure Anne me demandé à son seul. Je suis la résurrection. Alors ce n'est pas parce que nous aurons la foi que nous n'aurons pas des questions. Et comment le dire? Nous ne savons pas où tu vas. Comment est-ce que nous connaissons le chemin? Les autres disciples posaient sans doute la même question, mais Thomas a eu le courage d'aller au Dieu. Et poser les questions, ce n'est pas manquer de respect envers celui qui a toutes les réponses. La bonne nouvelle, c'est que Jésus se soucie de nos questions sincères. Il a répondu à Thomas. a répondre aux autres, il se prépare. Il est la réponse. Je pense que ceux qui sont à la maison chrétienne depuis des années, moi je me suis converti à des études dans les années, fin des années 60, 68, pendant que certains que je les entretiens, moi j'étais dans des réunions où on parlait de Jésus. Et à ce moment-là, on chante une chanson, et certains vont la reconnaître avec moi, Christ de la recommence, à tous les pourquoi. Parce que j'ai des amis là qui connaissent le chant. Seule solution dans un monde en désarroi, chaque problème de l'humanité, le Christ qu'il aime l'a déjà porté par Christ. Et la réponse fait lui, la vie, toi. Et puis, troisième passage, c'est comme Saint Thomas, c'est donc 8 jours après la résurrection, et Jésus s'invite à nouveau avec les disciples, et cette fois-ci, Thomas est avec lui. Et là, c'est un grand moment. Et le même passage, 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison, et Thomas se trouvait avec eux. Jésus dit alors que les portes étaient fermées, c'était au milieu d'eux, et puis, que la terre. Il dit à Thomas, avance ton doigt ici et regarde. Je vais. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. Ne sois pas incrédule, mais crois. Thomas lui répondit, mon Seigneur, je vais dire. Et Jésus lui dit, parce que tu m'as vu, tu as cru. Je veux ce que tu n'as pas vu. C'est lui. On n'a pas vu. Et on croit. Alors, la bonne nouvelle, c'est que Jésus franchit le mur. Et il traverse les portes même fermées. Les disciples s'étaient enfermés par peur de leur entourage, par peur de des autres. Et Jésus franchit ce mur. Nouveau mur, nouveau porte fermée, nouveau problème de terrain de Jésus. Et vous. Et puis la première parole, elle est intéressante, c'est la paix sur la terre. Donc il faut faire la paix. La paix de Dieu. Alors évidemment, quand on voit cette équipe qui est le plus disciple, on n'a pas le temps de faire le tour de cette équipe, mais c'est une équipe assez hétéroclite, c'est ça. Mon ami, le maire de l'Ouest-Est, qui est en Allemagne, parle des disciples en disant « Jésus est ce doux problème ». Ah oui, et c'est là que l'Évangile vient nous rejoindre. Ce sont des gens comme vous et moi. On a les mêmes questions, les mêmes doutes, les mêmes interrogations, avec leur manquement, leur faiblesse, leur fragilité. Et comme le disait quelqu'un, la force de l'Évangile n'est pas prisonnière de la faiblesse de ceux qui l'annoncent, et maintenant, alors Jésus invite Thomas à mettre son doigt dans les plaies. Et je ne sais pas, honnêtement, peut-être que je ne le dis pas, je ne sais pas s'il a eu le courage de le faire. Je ne sais pas. Entre ce qu'on dit et ce qu'on fait, parfois, pour un ange, je pense qu'il y a une telle intensité dans les propos de Jésus. La présence de Jésus, dans le regard de Jésus, dans les paroles de Jésus, quand il y a un moment fort qui s'écroule, comme tous les hommes qui ont rencontré Dieu, un moment dans la vie, ils fléchissent le genou et disent mon Seigneur est mon Dieu. Et alors là, Jésus dit parce que tu l'as vu, parce que tu l'as vu, tu m'as cru. Qu'est-ce qu'il a vu? Quand il a vu Dieu, c'est le plaisir de Jésus, le plaisir, le supplice, le masque dans les mains, dans le côté de Jésus, et que Jésus, c'est pour lui. Et maintenant, de se souvenir de cela, c'est aussi le sens de l'ascension, de se rappeler que Jésus est pour moi, avec sa famille. C'est comme si Jésus disait comment, c'est là, c'est là, c'est compliqué, c'est pour toi. C'est une vraie question, ces blessures nous parlent de son amour. Ces blessures nous disent même où nous avons mal. Les mains avec leurs mauvaises actions, les pieds qui prennent parfois de mauvaises directions, la tête avec ses mauvaises pensées, ses mauvais raisonnements, et les côtés, ses cœurs mauvais, si méchants parfois, duquel sortent la jalousie, les mauvaises paroles, la méchanceté. La Bible dira avec le prophète Jérémie, c'est dans ce qu'elle c'est dans ce qu'elle c'est dans ce qu'elle que je sais. Et là, il est vraiment en présence du vivant, il est ressuscité. Et personne de l'équipe ne conteste son identité, car il n'est que le marque de sa présence. Alors, du coup, il est confondu, il est convaincu, il est confondu. Et cette rencontre avec le ressuscité va devenir un catalyseur, un détonateur, un accélérateur, ou en tout cas un propulseur pour sa future mission. Il va devenir apôtre, l'apôtre est un ordonné, un missionnaire. Et la tradition rapporte que Thomas se rendra jusqu'en Inde pour lui passer devant Dieu. Il est mort près de Madras, sous le nom Thomas. Celui qui cherchait la vérité, il a trouvé, il a donné sa vie, et qu'un petit monde veut, il se connaît Jésus-Christ, le ressuscité. Pour cette matinée autour de vos paroles, autour de cette vie, merci pour l'exemple de Thomas, pour chercher la vérité, pour chercher la vérité, pour faire savoir ce que Dieu nous donne de ce côté. Il nous donne des arguments, il nous donne des preuves dans sa parole, mais qui persiste à tout ce matin. La place de l'homme est au de partir dans le vent pour renouveler cette foi dans la résurrection. Merci pour l'impact que la résurrection a été sur la vie des disciples. Et merci pour l'impact de la résurrection dans votre propre vie. Il change de vie, il transforme de vie. Et ta parole, les évangiles, c'est pas seulement un truc pour nous informer, mais pour nous transformer. Merci pour la réalité de la résurrection. Merci pour cette vie dans laquelle nous allons vivre, être renouvelés en cette Christ de la résurrection. Merci pour ton Église, merci pour ce témoignage de Christ, merci Seigneur pour ta parole. Amen. Je propose qu'on écoute encore une dernière fois, tout en conduisant nos jeunes avec ce soir au hôpital, si vous voulez bien. Et c'est à part, on va se quitter avec cet accent christique au hôpital, c'est-à-dire qu'un heureux jour pour Jésus à l'arrêt des péchés. on peut bien tout au long de cette journée, tout au long de cette semaine. Merci pour ta paix que tu nous as laissé à ton cœur. Merci de notre compagnie. Je prie pour ta bénédiction dans notre vie, dans notre famille et tous les femmes d'aujourd'hui.